Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques secondes sur Radion. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour une émission Wagon Livre au cours de laquelle nous allons vous proposer en nouvelle diffusion des interviews réalisées il y a de nombreuses années, mais des interviews qui vont nous permettre de redécouvrir la Bourgogne patrimoniale et littéraire. Nous aurons le plaisir d'entendre Jean-François Bazin nous donner des informations sur l'histoire du Clos Vougeot. Le Clos Vougeot, c'est à la fois un vignoble, un vin et un château vigneron. Nous réentendrons également Daniel-Henri Vincent, que nous avions enregistré lors de la fête du livre à Autun en 2013, évoquer le personnage haut en couleur, lui aussi extraordinaire, un libertin, en la personne de Bussy Rabutin. Et puis nous réentendrons avec bonheur le créateur des éditions de l'Armançon, Gérard Gauthier, que j'avais rencontré à Anneau en juillet 2012 à l'occasion de la sortie d'un album Vincenot. Ce sera pour nous l'opportunité d'entendre Gérard Gauthier évoquer ses souvenirs personnels avec Henri Vincenot, et nous aurons l'opportunité également de redécouvrir les talents multiples de ce grand écrivain bourguignon, auteur de la Bibaude. Et puis nous aurons bien sûr l'opportunité de parler des vins de Bourgogne et du personnage du chanoine Kir à travers une interview de Jean-Robert Pitt, que j'avais alors rencontré en juin 2015 à Dijon, à l'occasion de la publication du Dictionnaire amoureux de la Bourgogne aux éditions Plomb. Mais sans plus tarder, nous allons entendre tout de suite Philippe Ménager, qui est historien passionné du patrimoine bourguignon. Il a consacré un ouvrage à la sous-préfecture de Côte d'Or. En effet, à travers Destination Beaune pour aller à l'essentiel, il revient sur les charmes et sur le prestige mondial de cette ville de Beaune. Philippe Ménager.
Beaune, évidemment, c'est mondialement connu. Mondialement connu par le vin et pour le vin, mais également à travers des films. Rappelez-vous les hôtels, l'Hôtel Dieu, la salle des pauvres pour la Grande Vadrouille. Ce film a été diffusé dans une quarantaine de pays au monde. Donc, forcément, Beaune, c'est très connu. Or, évidemment, lorsqu'un éditeur vous sollicite en vous disant « Monsieur Ménager, on aimerait beaucoup que vous nous présentiez tout l'intérêt patrimonial d'une ville comme Beaune. » Ah, on se dit chic, mais on se dit quelle gageure également. Mais c'est quand même hyper stimulant parce que il y a l'Hôtel Dieu, hein, ce qu'on appelle familièrement les hospices, mais dans le livre je montre la subtilité qu'il y a entre le bâtiment de l'Hôtel Dieu et les hospices de Beaune, qui est une structure plus large incluant l'Hôtel Dieu. Et puis il y a le reste de la ville qu'on oublie parfois. C'est une ville qui a une enceinte fortifiée remarquablement conservée et qui a un patrimoine bâti civil et religieux qui est vraiment magnifique et digne d'intérêt. Donc, on présente tout ça. Et puis, comme on est en Bourgogne quand même, on finit avec des notes paysagères et gastronomiques.
Gourmandise, bien sûr. Alors, à l'origine, les hospices de Beaune s'inscrivent dans la tradition hospitalière. Alors, au départ, c'est l'Hôtel Dieu et il faut inévitablement évoquer le chancelier Nicolas Rollin et son épouse, la célèbre Guigonne de Salins.
Ah ben, sans eux, l'Hôtel Dieu n'aurait pas existé. Alors, les mauvaises langues ont dit que Rollin, qui était chancelier de Bourgogne, avait fait ça pour racheter toutes les saloperies, passons le mot, qu'il avait commises durant son existence de chancelier, et il faut reconnaître qu'il n'avait pas été exactement un homme très tendre. Mais il a fait, en fondant cet Hôtel-Dieu, eh bien, œuvre hospitalière et œuvre chrétienne, et il l'a structuré de façon excessivement moderne à l'époque. Et lorsque lorsqu'on crée ce bâtiment, on se dit, mais c'est un palais pour le chancelier ou c'est pour les pauvres? Et c'est bien là toute la singularité de l'Hôtel-Dieu, c'est que c'est un chef-d'œuvre architectural à destination des pauvres.
Alors, un petit mot peut-être aussi sur la toiture. Pourquoi ces tuiles de couleur, Philippe Ménager?
Alors, d'une part, précisons que lorsqu'on accède à l'Hôtel-Dieu, on ne voit pas ces fameuses tuiles vernissées colorées. La façade qui donne sur la rue est couverte d'ardoises. Et alors là, on se dit, mais on m'a menti, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Mais non, en réalité, c'est l'ardoise qui, à l'époque, est le matériau de couverture précieux. Et c'est le morceau que l'on voit sur l'extérieur. Donc on se dit, oh, un palais couvert d'ardoises, que c'est chic. Et les tuiles vernissées, qui certes coûtent plus cher que de la tuile classique, mais c'est un peu moins classe. Donc on réserve ça pour l'intérieur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que celles que nous voyons aujourd'hui ne sont pas celles de l'époque de Rollin. Elles ont été supprimées généralement entre le 18e et la première moitié du 19e. On a quelques tableaux même qui montrent les toitures avec de la simple tuile rosâtre bourguignonne. Alors là, on se dit, mon Dieu, que c'est tristounet. Et il faut attendre la restauration durant la deuxième partie du 19e siècle, et pour les toitures, ce sera même début 20e, pour retrouver, d'après des éléments historiques confirmés, eh bien, cette couverture en tuile vernissée qui est devenue mondialement célèbre.
Il s'agit de bien comprendre qu'il y a finalement une construction par étape, une évolution, un agrandissement régulier de cet Hôtel-Dieu dont vous rendez compte dans votre livre, hein, Philippe Ménager. Je rappelle, destination Beaune, pour aller à l'essentiel. Alors, un mot des trésors de l'Hôtel-Dieu. Incontestablement, il y a une œuvre phare parmi d'autres tout de même.
Oui. L'Hôtel-Dieu, ce sont des salles qui sont très riches pour leur architecture propre, et également c'est du mobilier. Alors, vous avez un ensemble de tapisseries médiévales ou de l'époque moderne de très grand intérêt. Mais c'est éclipsé par le polyptyque de Roger van der Weyden qui montre le jugement dernier. Et alors là, c'est l'art flamboyant du 15e siècle. C'est une splendeur qui ne se raconte pas. Elle se voit.
Plus de 5 mètres de longueur.
Oui, 5 mètres de longueur. Des parties qui sont couvertes d'or à la feuille. Des personnages qui provoquent l'émoi, la surprise. Et il faut se dire, c'est que cette œuvre-là se trouvait sur l'autel de la chapelle des pauvres. Et quand on devait leur ouvrir ça le dimanche pour la messe, on devait être véritablement impressionné. Nous, aujourd'hui, avec notre culture moins empreinte de religion, sommes déjà époustouflés. Or, eux, c'est très prégnant, ça devait être vraiment quelque chose de remarquable.
La Révolution française a préservé le bâtiment, mais on a changé les statuts et le mode de fonctionnement.
Ah oui. Ce qui est remarquable, c'est de signaler que l'Hôtel-Dieu est une structure privée. Hein, et les patrons de cette institution hospitalière, ce sont les descendants de Nicolas Rollin et Guigogne de Salins. Bon. Et à la Révolution française, eh bien, l'État va mettre la main sur toutes les institutions hospitalières et va les faire passer dans le civil. C'est à cette occasion que l'Hôtel-Dieu va être regroupé avec d'autres institutions hospitalières beaunoises et que cela va donner lieu aux fameux hospices de Beaune. Les hospices de Beaune, c'est une création administrative de la Révolution française. Mais le bâtiment est conservé parce que c'est un bâtiment hospitalier et eh bien, ça, c'est toujours utile, même en période de trouble.
Soulignons donc qu'une grande partie du livre est consacrée à l'Hôtel-Dieu et aux hospices de Beaune. Et puis, une deuxième partie révèle les curiosités et les trésors de cette ville de la Côte d'Or. Alors, il y a la collégiale Notre-Dame qui représente dans sa splendeur des pans entiers de l'art roman bourguignon. Et puis, Philippe Ménager, vous connaissez Beaune comme votre poche désormais.
Je me méfie, dans ma poche, il y a beaucoup de bazar. Je connais peut-être mieux Beaune que ma poche au final. Mais... Oui, il y a la collégiale et puis vous avez un certain nombre d'hôtels particuliers, d'anciens bâtiments religieux qui ont été reconvertis après la période révolutionnaire, qui agrémentent une visite de la ville. Et puis, redisons-le, Beaune est une ville fortifiée qui a conservé l'ensemble de ses remparts. Et alors ça, c'est très intéressant parce que on peut les parcourir depuis la hauteur des murailles jusqu'aux parcs qui sont à l'extérieur, dont le plus beau est le parc de la Bouzaise, du nom de la rivière qui prend sa source. C'est magnifique, c'est agréable, c'est reposant et ça clôt bien une journée à Beaune, à moins qu'on ne préfère aller dans les caves qui là aussi sont remarquables.
C'était Philippe Ménager, rencontré lors de la fête du livre d'Autun en avril 2015 pour Destination Beaune, pour aller à l'essentiel que l'on peut se procurer en librairie aux éditions de l'Escargot Savant. C'est Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion. Je vous laisse en compagnie d'une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour revenir sur un personnage littéraire très important en Bourgogne. Il s'agit de Henri Vincenot à travers une interview avec le créateur des éditions de l'Armance, Gérard Gauthier. Très bonne fin de matinée sur votre radio locale.
Can you help me? I'm feeling down. It's just, I'm like bugging up for a lady. Come and get me. I'm not alright. Don't you worry about the love coming on. Ten hours flight. Please just wake me up soon enough for the climbing. In the backseat, you're on my mind. My head's never been as much in the clouds.
Standing on the pitch, but you're about the range that I could reach the ceiling for your face.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Une émission consacrée à la Bourgogne à travers la diffusion aujourd'hui d'archives, de reportages et d'interviews que vous avez pu entendre il y a plusieurs années à bord de votre émission littéraire. Nous allons maintenant nous arrêter sur Henri Vincenot. Henri Vincenot est né en 1912. De la sculpture à l'écriture, en passant par la peinture, le journalisme, le théâtre, le défrichage et la reconstruction en famille d'un petit hameau perdu, Vincenot offre le visage d'un artiste multiple et d'un homme d'une sincérité sans partage. Il avait fait paraître Vincenot l'album à la maison d'édition qu'il avait créé. C'est Gérard Gauthier qui va maintenant nous donner d'autres éléments informatifs sur ce pittoresque écrivain qu'est Henri Vincenot. Gérard Gauthier, enregistré en juillet 2012 lors de la fête du livre d'Anneau dans la Nièvre.
On retrouve évidemment l'Henri Vincenot écrivain, c'est la fin de l'album. On retrouve Vincenot peintre, on retrouve Vincenot sculpteur, Vincenot constructeur en quelque sorte, architecte avec l'aventure du hameau de La Purie. Et puis je dis La Purie parce que c'est le nom exact, Claudine l'explique d'ailleurs un peu dans l'album, Purie, Puriot, petite rivière, et ça s'est transformé dans le langage courant par Pourie, ce qui n'est quand même pas très flatteur, le nom de Purie est quand même plus joli. Et donc on a cette aventure, on a le théâtre, car c'est le théâtre qui a fait connaître Henri Vincenot en ce qui concerne l'écriture. Mais on s'aperçoit déjà dans cet album qu'avec le théâtre, il avait fait des décors, il a fait des costumes. Donc on voit là le peintre naît. Et puis le sculpteur, car il a jeune, il a commencé par sculpter. Et bien évidemment,
Saint-Vincent.
Alors il y a des sculptures qui n'étaient que des sculptures familiales, c'est-à-dire qu'il n'a jamais vendu les sculptures, alors que sa peinture, il la vendait. Il a commencé par la vendre à Paris, puisqu'ils habitaient Paris pour, à ce moment-là, soigner Jean-Pierre, le fils aîné, qui était sourd-muet, donc qui était à l'Institut de Boulevard Saint-Jacques. Et puis ensuite, il a fait ses sculptures aussi pour sa femme. Donc tout cela était resté très personnel. C'est les sculptures sont dans l'ensemble réunies au musée au musée d'art sacré à Dijon pendant le temps de l'exposition sur le centenaire de sa naissance. Et puis on a le Vincenot l'ailleurs, car Vincenot était bourguignon certes, mais il avait deux grandes passions en quelque sorte: la Bretagne où il avait été tout jeune avec ses parents pour se soigner d'une pleurésie, et puis le Maroc qui a été certainement sa grande rencontre. Et on le retrouve
où il avait fait son service militaire,
où il avait été
blessé d'ailleurs.
Absolument, et où il retourne lorsque sa fille et son gendre iront en coopération pour enseigner. Et donc de ce voyage en Maroc, il a laissé deux carnets, un carnet fait dans les années 32 et un autre carnet dans les années 70, 72, 73. Et là c'est l'aspect, on voit tout le travail préparatoire de ce qu'ils ont donné, les dessins magnifiques qu'il avait fait après dans les années 60-70. Donc voilà, c'est vraiment l'ensemble, et puis la partie famille, les racines, donc sa Bourgogne et sa famille qui comptaient énormément. Voilà, c'est l'ensemble de cet album sur 128 pages entièrement en couleur.
Alors vous l'avez dit, Gérard Gauthier, c'est vrai que vous avez accompagné un petit peu et même beaucoup Henri Vincenot au moment où finalement la France le découvre lors de son passage à l'émission d'Antenne 2, c'était apostrophe.
Alors en réalité,
étiez en fait directeur commercial chez Noël.
Voilà, moi j'étais directeur commercial.
Le responsable des éditions de la Mansion.
Non, j'ai monté la maison d'édition avec mon épouse en 87, après avoir quitté de Noël en 86. C'est-à-dire un an après la mort d'Henri Vincenot et la mort de René Barjavel, qui est décédé le jour où l'on enterrait Henri Vincenot. Coïncidence assez troublante. Donc moi je me suis occupé d'Henri Vincenot de 1972, au moment où je rentrais chez Gallimard pour m'occuper du secteur suisse. Mais Gallimard avait une diffusion avec plusieurs éditeurs, Table Ronde, Mercure de France, Lattès, etc., et de Noël. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré Henri Vincenot. Et de 72, au moment où il publiait Le Pape des Escargots, jusqu'à son décès, je me suis occupé de lui quand j'étais en Suisse d'abord, et puis ensuite à mon poste de directeur commercial, où là je me suis occupé sur un plan commercial de l'ensemble des auteurs de la maison, bien sûr, d'Henri particulièrement, parce qu'il était sollicité par les éditeurs. Les éditeurs, je l'avais emmené en Suisse en 72, et où il avait fait un fort bel impact avec, en passant à la radio suisse romande avec Gérard Valbert. Et ça, c'est, bon, ben, vous savez, les choses se savent. Et du coup, lorsqu'il est rentré, lorsque nous sommes rentrés à Paris, il a eu l'occasion de parler à nouveau dans les radios. Et surtout, il avait publié, Albert Blanchard, le patron de Noël, l'avait laissé partir, publier chez Hachette, dans la série La Vie quotidienne, un ouvrage sur les chemins de fer au 19e. Et c'est Jacques Chancel, le premier, qui a eu l'idée, après probablement l'avoir entendu à mon avis sur la radio suisse romande, de l'inviter pour son émission Radioscopie. Et c'est là, ensuite, qu'il est passé à Apostrophe, 2 ans après, pour La vie des paysans bourguignons dans la Lamartine, son premier passage.
Mais la Bibaude a complètement chamboulé la vie un peu tranquille de ce bon père de famille,
voilà,
bourguignon.
La Bibaude a beaucoup changé sa vie, bien sûr, mais c'est assez bizarre. Après ces deux publications chez Hachette, Le pape des escargots chez De Noël, Le sang de l'Atlas, il est sollicité par la maison Plon, Mallory, qui dirigeait la collection Terre humaine. Et Henri n'avait pas du tout envie de... C'est quelqu'un qui était fidèle. Il est parti chez Hachette uniquement avec l'accord d'Albert Blanchard. Sinon, il serait resté. Il n'aurait peut-être même pas fait cela. Mais il n'avait pas du tout envie d'aller chez Plon. Mais à ce moment-là, je lui ai posé la question. Avez-vous donc un manuscrit qui intéresse Plon? Parce que dans l'esprit de Mallory, c'était pour continuer Le cheval d'Orgueil, et puis ensuite, c'est-à-dire Henri Vincent avec la Bourgogne, et puis après l'Auvergne avec... j'ai perdu le nom de l'auteur qui avait écrit sur l'Auvergne. Et il me dit, oui, j'ai quelque chose, j'ai un manuscrit, mais c'est pas très en forme, puis j'ai pas envie de le taper. Je dis, si vous n'avez pas envie de le faire chez Plon, le faites pas chez Plon. Et puis, mais peut-être que ça pourrait être intéressant de le faire chez De Noël. On pourrait peut-être. Oui, mais j'ai pas le temps de le taper, puis ça, c'est compliqué, c'est tout un fatras de pages. Et je lui ai proposé de prendre cet ensemble de feuillets et de lire au magnétophone son texte, et qu'ensuite une secrétaire lui retaperait. Et à partir de là, voilà, l'aventure de la Bibaude a commencé. Il a accepté, on a fait ce travail, et puis on l'a publié avec beaucoup de plaisir, parce que je découvrais le texte au fur et à mesure. Et par la suite, Albert Blanchard, qui lui alors a été enthousiaste d'un seul coup, il s'est dit, mais pourquoi j'ai laissé partir un citoyen, en quelque sorte. Et là, Henri a continué à publier chez nous, bien sûr, Les étoiles de Compostelle, et puis ensuite L'œuvre de Cher. Et un dernier livre chez Hachette, puisqu'il avait un accord pour 3 livres, donc il a publié Les remparts de la miséricorde. Enfin, ce qui ne s'appelait pas Les remparts de la miséricorde, qui s'est appelé, c'était son vrai titre, ça s'est appelé Les remparts de la miséricorde chez Anne Carrière, à la réédition, mais Hachette avait demandé ce que ça s'appelle Les mémoires d'un enfant du rail, ce qui, à mon avis, était un moins beau titre que Les remparts de la miséricorde.
Gérard Gautier, il existe un titre de Vincenot aux éditions de l'Armançon?
Absolument. Alors ça, c'était, Henri décède en 85, moi je quitte De Noël en 86, je monte les éditions en 87, et en 88 les enfants, Claudine, François était malheureusement décédé, Denis, me disent, papa t'aurait aidé dans ta maison d'édition, si tu es d'accord, j'ai retrouvé un texte inédit de sa main, entièrement écrit, sans rature, sans rien, magnifique. Ça s'appelle le livre d'horizon de Claude Bourguignon, voilà, on te le donne, tu peux le publier. Donc j'ai accepté, puis en même temps déontologiquement c'était très délicat, donc je suis allé voir le patron de Noël qui avait changé entre temps, et j'ai demandé au patron de Noël, je lui ai dit, écoute Henri, voilà, j'ai ce manuscrit, est-ce que tu serais d'accord qu'on le fasse en compte admis, c'est-à-dire en coédition? Et du coup le livre de raison de Claude Bourguignon est sorti en coédition de Noël Armançon.
C'était Gérard Gautier à notre micro, enregistré en juillet 2012 lors de la fête du livre d'Anneau dans la Nièvre. Gérard Gautier évoquait la sortie à sa maison d'édition, les éditions de l'Armançon, Vincenot, l'album. Et en tout cas, au cours de cette interview, et pour conclure, on a envie de dire, mais quel diable d'homme chez qui tant de talent étonne. Henri Vincenot, né en 1912 et mort à Dijon en 1985, très précisément le 21 novembre 1985. C'est Wagon Livre, une émission spéciale Bourgogne en cette fin de matinée sur votre radio locale. On se retrouve dans une poignée de minutes après la pause musicale que nous vous offrons.
je t'ai pas tout dit. Je pars de Paris, perdu mon pari. Je change de vie. Je veux pas ton avis, je quitte le navire. Oui, je prends le large. Sois barge et suis-moi. Tu m'as fait l'échapper. Échapper belle avec toi, tu me feras la courte échelle, on sera des hors la loi. Une jolie parenthèse avec toi, on filera à l'anglaise, on se cachera dans les bois. Ne reste pas de glace. Je sens l'impasse, je passe à l'action, là, je tourne en rond. Fais tomber le masque et lis le fantasque, oui, je tente ma chance. Avance et suis-moi. Je me fais l'échapper belle, échapper belle avec toi. Tu me feras la courte échelle. Hors la loi, une jolie parenthèse avec toi, on filera à l'anglaise, on se cachera dans les
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Dans un petit quart d'heure, grâce à Wagon Livre, nous aurons l'occasion de nous promener au château du Clos de Vougeot à travers la diffusion d'un petit reportage enregistré avec Jean-François Bazin. Nous reviendrons sur Vougeot, qui est à la fois un vignoble, un vin et un château vigneron. Mais tout de suite, la Bourgogne littéraire à travers Roger Drabutin, comte de Bussy, qui est l'une des figures les plus étonnantes et les plus méconnues du grand siècle. De bonne noblesse bourguignonne, officier général courageux, fidèle à la cause royale pendant la Fronde, cultivé et galant, il est surtout l'inventeur d'un certain libertinage bien français. Auteur d'un roman à clé qui fit scandale, l'histoire amoureuse des Gaules, emprisonné à la Bastille, il est finalement contraint à une vie d'exil qui le désole. Et nous allons revenir sur ce personnage haut en couleur qu'est Bussy Rabutin à travers la diffusion d'un petit entretien que j'avais enregistré à Autun en 2013 avec Daniel-Henri Vincent, ancien directeur régional des affaires culturelles de Bourgogne, qui a donné une édition des mémoires de Bussy Rabutin et qui est aussi le biographe de Bussy Rabutin, notamment aux éditions Perrin en 2011. Daniel-Henri Vincent.
Bah, ce personnage est un personnage tout à fait fabuleux, extraordinaire, un libertin, mais sans se tromper sur le sens du mot libertin. C'est certain que Bussy était un homme avec une vie un peu agitée, mais c'était quand même pas le seul. Et c'est pas pour ça qu'on devrait s'en souvenir.
Alors, Daniel-Henri Vincent, peut-être pourriez-vous rappeler ce qu'est, dans les grandes lignes, un libertin au XVIIe siècle. C'est surtout quelqu'un qui se pose quand même comme à l'écart de toute croyance, et notamment à l'écart de la religion catholique à l'époque.
Voilà, c'est ça qui marque, ce sont les dans les trois aspects de son libertinage. Il y a le libertinage de mœurs que j'évoquais, mais il y a le libertinage philosophique ou religieux qui, pour Bussy en tous les cas, n'est pas un athéisme. C'est simplement un doute. C'est simplement l'expression d'une liberté de pensée consistant à dire « mais on me dit telle et telle chose, il faut croire telle et telle chose, mais pourquoi est-ce que je dois croire ça ? Je réfléchis, je pose des questions, je mets le doute, et en cela, il est très moderne. » Et puis, il y a encore une autre forme de libertinage, qui est celle d'une distance, pour ne pas dire d'une opposition, mais en tous les cas, d'une distance vis-à-vis de l'autorité royale, et de Louis XIV en particulier, c'est ça qui lui coûte d'ailleurs le plus cher, c'est-à-dire l'exil.
Alors, vous avez fait paraître aux éditions Perrin une biographie intitulée Bussy-Rabutin, le libertin puni. Bien sûr, quand on parle de lui, on pense aussi au château qui porte son nom. Il y a eu, et il a écrit, des contes extrêmement osés qui lui ont valu quand même l'exil et le bannissement et l'ennui quand même à Bussy-Rabutin.
Oui, alors, bon, d'abord, s'agissant de son exil, c'est vrai que la cause directe et immédiate, c'est la publication de son roman, entre guillemets, qui s'appelle « L'histoire amoureuse des Gaules », dans laquelle il raconte un certain nombre de revers, d'arrière de décor du siècle de Louis XIV qui est très éloigné de la noble ordonnance des jardins de Lenôtre.
Mais des gens s'y reconnaissent.
Alors, non seulement les gens s'y reconnaissent, mais les pseudonymes sur lesquels les personnages sont décrits sont transparents, tout le monde les reconnaît. Et donc, mais il ne s'agit pas du tout d'une mise en cause de la famille royale, il s'agit bien des frasques de personnages à la cour que tout le monde connaissait. Je veux dire, Bussy n'apprend rien. Il raconte avec l'esprit, avec la médisance qui le caractérise. Et c'est ça qui déclenche son exil, j'allais dire, d'une façon évidente, immédiate. Mais ce n'est pas le fondement réel. Le fondement, c'est que dans cette histoire, il raconte notamment une fameuse débauche qu'on appelle la débauche de Roissy, où là, il s'agit d'élever en une dévotion, je dis bien une dévotion, certaines pratiques entre des personnages du même sexe, pour dire les choses très clairement, et c'est pas le fait que ce soit des personnes du même sexe, c'est qu'on dise que ça c'est une dévotion et de faire une parodie des dévots. Et on sait qu'à l'époque on condamnait Molière et qu'on a fait interdire le Tartuffe. C'est exactement la même époque.
En attendant le quatrième centenaire de la naissance de Bussy-Rabutin, c'est-à-dire en 2018, Daniel-Henri Vincent, vous restez tout de même très actif, puisque c'est vous qui avez établi et présenté les mémoires du comte de Bussy-Rabutin qui sont publiées, s'il vous plaît, aux éditions du Mercure de France, c'est-à-dire finalement chez Gallimard. Enfin, c'est une filiale de Gallimard.
Oui, et indépendamment de son rattachement juridique, et c'est quand même une des plus anciennes maisons d'édition françaises, et la collection Le Temps Retrouvé, c'est un peu l'équivalent de la Pléiade pour la littérature. Bon, et je suis évidemment, inutile de vous dire, enchanté de ce que Isabelle Gallimard ait bien voulu publier les mémoires de Bussy, et Antoine Debec, qui est le directeur de la collection, ait bien voulu publier les mémoires. Qui en valent la peine? Honnêtement, qui en valent la peine, parce que Bussy se raconte avec beaucoup de liberté et se raconte, et il raconte les autres, il raconte la vie, et on peut dire que c'est une sorte de promenade que l'on fait en lisant ses mémoires, une sorte de promenade que l'on fait au grand siècle, depuis la fin du règne de Louis XIII jusqu'au règne personnel de Louis XIV. Et c'est un dépaysement absolument extraordinaire, et c'est une lecture tellement agréable.
Impossible de nous séparer sans évoquer la publication très prochaine en CD de textes de Bussy-Rabutin, donc c'est chez Frémaux et Associés, bien connu, des textes lus par un de vos amis, Marcel Bozonnet, ancien sociétaire et administrateur de la Comédie-Française.
Oui, on peut, plus de 300 ans après, grâce à Marcel Bozonnet, qui sait, en tant qu'ancien sociétaire de la Comédie-Française, parfaitement lire, dire évoquer la langue du XVIIe siècle, qui est une langue merveilleuse. Je crois que le français atteignait un sommet de beauté et de clarté au XVIIe siècle. Donc on peut maintenant effectivement entendre Bussy Rabutin en trois CD, un relatif aux mémoires, le second relatif à la correspondance, notamment avec celle de sa cousine la plus célèbre, la marquise de Sévigné, oui, bien sûr. Et puis le troisième CD sur les textes moins connus de Bussy, dont son histoire amoureuse des Gaules.
C'était Daniel-Henri Vincent, biographe de Bussy Rabutin, que j'avais rencontré et interviewé lors de la fête du livre d'Autun en avril 2013. Je rappelle que Daniel-Henri Vincent a fait paraître Bussy Rabutin, le libertin puni, donc biographie de cette grande figure littéraire aux éditions Perrin en 2011, et il a également donné une édition des mémoires de Bussy Rabutin. Bussy Rabutin qui est mort le 9 avril 1693 à Autun. Excellente fin de matinée à toutes et à tous sur Radion. C'est Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi. Dernière petite pause musicale et ensuite nous partons avec Jean-François Bazin à la découverte du château du Clos de Vougeot entre Beaune et Dijon.
While you were telling me, I turned against the wind. And when my eyes started to burn, and you turned your back on me. Well, you see, I slipped away. Now turn to me. 'Cause I've done 100 things you've only dreamed.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Nous poursuivons notre déambulation qui nous permet une découverte du patrimoine gourmand, vinicole, viticole et littéraire de la Bourgogne. Cette fois-ci, grâce à Jean-François Bazin, nous allons redécouvrir l'histoire du Clos de Vougeot. Jean-François Bazin a été journaliste, président du conseil régional de Bourgogne, adjoint au maire de Dijon. C'est sans doute l'un des meilleurs connaisseurs de l'histoire du vin de Bourgogne. Et nous l'avions rencontré en 2017 dans la cour du château du Clos de Vougeot à l'occasion de ce magnifique salon du livre Livres en Vigne qui se tient le dernier week-end de septembre chaque année depuis plus de 10 ans maintenant. Et Jean-François Bazin nous a fait la gentillesse de revenir sur l'histoire du château du Clos de Vougeot. Jean-François Bazin.
C'est à la fois un vignoble, un vin et un château vigneron. C'est aussi beaucoup d'autres choses puisque c'est la plus belle table d'hôte de France. Chaque samedi soir, quelques 500 convives célèbrent à la fois l'amitié bourguignonne et le vin de notre région.
L'histoire du château du Clos de Vougeot est étroitement lié à celle de l'abbaye de Citeaux qui est apparue en 1098, extrême fin du XIe siècle.
Oui. Ce n'est pas un ou deux ans près, mais dès 1100, pour dire les choses simplement, on a planté ici de la vigne, probablement parce que c'est ce qui restait disponible. Cluny était déjà là, un certain nombre d'autres monastères étaient déjà présents. Donc probablement, sitôt, on lui a donné ce qui restait, mais c'était tout de même pas mal. Et la démarche de sitôt, ça a été un peu une démarche bordelaise, c'est-à-dire de faire un clos de 50 hectares où il y avait plusieurs climats. Le climat n'est pas forcément synonyme d'appellation en Bourgogne. Même si le climat est très important, il y avait une quinzaine de climats différents au sein des 50 hectares du Clos de Vougeot. Et les moines de Citeaux ont su patiemment en faire quelque chose de grand, en sélectionnant les cépages, en apprenant à vinifier. Et finalement, un abbé bien inspiré y a établi non seulement une cuverie qui existait d'ailleurs avant lui, mais il a établi un petit château symbole de la Renaissance bourguignonne qui permet d'accueillir tous nos visiteurs dans un lieu qui appartient au fond à toute la région.
Alors, influence cistercienne durant 680 ans. Et puis, en 1789, ce château est déclaré bien national. Il a même été vendu en bloc en 1791.
Alors, ça a été par saut de puce, parce qu'il y a eu d'abord une vente qui a été quelque peu annulée. Il y en a eu ensuite une autre. Et c'était surtout des aventuriers parisiens, des marchands de biens qui achetaient ça. Hein. Ce n'était pas du tout le peuple bourguignon qui devenait propriétaire du Clos Vougeot à la place des moines. Non, en réalité, c'était des financiers parisiens et qui d'ailleurs se sont disputés les uns les autres. Et finalement, à la fin, l'un a pris le pouvoir. C'était d'ailleurs un homme qui a fait parler de lui, puisque c'était le financier privé de Napoléon, et c'est lui qui payait cet ouvrard, il s'appelait ouvrard, qui payait les campagnes militaires de Napoléon, ou ne les payait pas d'ailleurs. Et son fils est devenu le propriétaire, et le clos est donc resté en monopole, c'est-à-dire non séparé, jusqu'à la fin du XIXe siècle, où à ce moment-là, ses enfants ont vendu. Et à partir de ce moment-là, bien, on a eu la scission de nombreuses parcelles qui ont appartenu petit à petit à des propriétaires bourguignons.
Alors avançons un peu dans le temps. En 1889, Léonce Boquet s'adjuge donc une quinzaine d'hectares et il devient propriétaire du château. Alors Léonce Boquet, il est négociant en vin à Savigny-les-Baunes et on a dit qu'il s'était ruiné en restaurant le château du Clos de Vougeot.
Oui, peut-être s'est-il ruiné, mais et il est vrai qu'il a consacré beaucoup de sa fortune pour restaurer cette bâtisse qui était en ruine et qui méritait bien d'avoir des aménagements de qualité. Alors, est-ce qu'il s'est vraiment ruiné? Peut-être pas, puisqu'il avait quand même beaucoup de vignes, beaucoup de propriétés, et le château du Clos de Vougeot n'en était qu'une. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que tout le décor que l'on voit dans ce salon du livre au premier étage, c'est un décor qui lui est dû, qui est un décor 1900.
Alors, des gens très célèbres, ils sont venus. La comédienne Sarah Bernhardt, par
exemple. Sarah Bernhardt, d'autres encore, des écrivains, des peintres, des hommes d'église, d'ailleurs, hein, puisqu'il y a une chapelle. Ce qu'on ne sait pas toujours, au sein du Clos Vougeot, il y a une chapelle, à vrai dire, qui n'est plus guère ouverte, mais ça a été béni par... l'évêque de Dijon qui était venu spécialement pour ça.
Alors Léonce Boquet est mort en 1913, il est inhumé devant le château.
Il a obtenu, enfin du moins sa veuve, mais je crois que c'était même lui qui l'avait souhaité, et en signe de reconnaissance, on a fait cette exception pour lui, puisqu'en principe on ne peut pas être enterré chez soi, mais dans le cas présent, il avait tellement fait pour la Bourgogne qu'on pouvait l'autoriser à reposer face au château.
Jean-François Bazin, en cette année 2017, qui est le propriétaire du château du Clos de Vougeot ?
Eh bien, il y en a quatre. Ce sont quatre familles bourguignonnes, enfin trois familles bourguignonnes et une famille parisienne qui ont, à l'époque, acheté le château du Clos de Vougeot. Pas les vignes, hein, le château. Lorsque celui-ci a été vendu, disons dans les années 1920-1930, et ils l'ont fait, c'était M. Camuset, député du coin qui en était propriétaire, ils l'ont fait parce que M. Camuset ne souhaitait pas que la confrérie en devienne propriétaire. Il disait, oui, mais un jour, la confrérie va devenir américaine, etc. Oui, oui, enfin, il avait ce genre de sentiment. Et donc, il a vendu à quatre propriétés, dont trois très connues en Bourgogne, dans le Nuiton, avec charge pour eux, ce qui a été respecté jusqu'à présent, c'est de le mettre au profit de la Bourgogne tout entière. Donc, on peut dire que ces personnes sont des personnes qui ont apporté beaucoup à la vie bourguignonne, mais puisqu'ils sont propriétaires d'un château dont elles ne profitent pas.
À l'heure actuelle, le vin du Clos de Vougeot représente 230 000 bouteilles par an.
Ah oui, puisque ça fait 50 hectares, donc c'est une très grande propriété.
Et avec quoi doit-on consommer le vin du Clos de Vougeot? Quelle viande? Que recommandez-vous, Jean-François Bazin?
Oh, bon, je pense que c'est plutôt effectivement une viande. Ça peut être un bon rôti, ça peut être une côte de bœuf, ça peut être du gibier. Bon, on en consomme moins qu'à une certaine époque, mais ça peut être aussi le fromage. Un Clos Vougeot peut très bien honorer un citeau ou encore un époisse.
Un époisse. Ou alors dans Lyon, un sous-maintrin?
Eh bien, pourquoi pas? À soumettre.
Jean-François Bazin, puisque vous êtes un des meilleurs connaisseurs de l'histoire du vin de Bourgogne, j'aimerais que vous nous parliez de cette confrérie des chevaliers du Tastevin et peut-être rappeler ce qu'est un Tastevin. Alors, ça s'écrit Tastevin?
Alors, on ne dit pas Tastevin, on dit Tastevin. Ben, tâter le vin, c'était le goûter. Donc, c'est un vieux mot français. Le Tastevin, c'est la petite tasse en métal qui est fabriquée de façon particulière avec des cupules, avec des... de façon à pouvoir le déguster le vin, et particulièrement le vin rouge. Ce Tastevin, naturellement, a inspiré une confrérie en 1934, et celle-ci est la première de toutes les confréries du monde. Maintenant, il y en a partout, sur les cinq continents, vous avez des confréries qui s'occupent de tout, du fromage, du vin, mais de beaucoup d'autres choses aussi, et on peut dire que les gens... de Nuits-Saint-Georges avait de l'imagination, parce que on s'aperçoit que de 1934 à nos jours, ça s'est pas si mal porté, ce Tastevin.
Alors, vous-même, êtes-vous membre de cette confrérie des chevaliers du Tatevin ?
Oui, naturellement, depuis très longtemps. Mais étant bourguignon, habitant à 3 km et ayant été journaliste, écrivain, naturellement, la confrérie m'a demandé d'écrire dans sa revue. Enfin, je suis un ami du Tatevin.
En tout cas, à l'heure actuelle, cette confrérie des chevaliers du Tatevin compte plus de 10 000 membres.
Oui, c'est ce qu'on dit.
Aux quatre coins du monde.
Aux quatre coins du monde, elle a réussi une ambassade assez étonnante et extraordinaire, puisqu'elle a abordé maintenant l'Asie, alors qu'elle était plutôt orientée vers les États-Unis, vers l'Amérique. Et l'Asie, c'est un défi très important. D'abord le Japon, Singapour, et puis maintenant la Chine.
C'était Jean-François Bazin dans une interview enregistrée il y a quelques années lors du salon Livres en Vigne au château du Clos de Vougeot. L'occasion pour nous de laisser la parole à un historien de l'histoire du vin de Bourgogne et il nous a donné quelques informations particulièrement intéressantes sur ce magnifique château du Clos de Vougeot. Je rappelle que Jean-François Bazin a été journaliste. Il a aussi été président du Conseil régional de Bourgogne d'avril 93 à avril 98. Il fut aussi premier adjoint au maire de Dijon. Excellente fin de matinée à toutes et à tous. C'est Wagon Livre sur votre radio locale. Juste après la pause musicale, nous vous proposerons une interview de Jean-Robert Pitt, professeur de géographie et ancien président de l'Université Paris-Sorbonne, pour son dictionnaire amoureux de la Bourgogne. Une interview enregistrée à Dijon courant juin 2015, alors qu'il était l'invité du Club des écrivains de Bourgogne.
Wagon Livre ? Votre émission littéraire.
Nous allons terminer ce numéro de Wagon Livre avec une interview de Jean-Robert Pitt. Je l'avais rencontré au printemps 2015 alors qu'il était l'invité du Club des écrivains de Bourgogne et qu'il était venu présenter son dictionnaire amoureux de la Bourgogne, toujours disponible aux éditions Plomb. Jean-Robert Pitt est professeur de géographie et ancien président de l'Université Paris-Sorbonne. Il est membre de l'Académie des sciences morales et politiques et il a signé de nombreux ouvrages portant sur le paysage, sur la gastronomie et sur le vin. Sans tarder, Jean-Robert Pitt, qui nous confie son amour de la Bourgogne, des vins de Bourgogne, il parlera aussi d'un personnage pittoresque de Dijon, à savoir le chanoine Kir. Jean-Robert Pitt.
Alors d'abord, je dois dire que, en plus, en tant que membre de l'Académie du vin de Bordeaux, je ne peux pas dire de mal du vin de Bordeaux. Ce sont deux vins qui sont effectivement très différents l'un de l'autre, opposés même par certains aspects. Et évidemment, si j'ai cité ce passage de Solers, mais j'en ai cité quelques autres, de Mauriac, etc., qui sont du même tabac, j'allais presque dire de la même eau, je trouve que c'est absurde d'écrire des choses pareilles. Ce sont deux vins tellement différents l'un de l'autre qu'on a le droit de préférer l'un à l'autre, qu'on a le droit de changer de vin au cours du repas, qu'on peut boire du Bourgogne blanc suivi d'un Bordeaux rouge, du Bordeaux blanc suivi d'un Bourgogne rouge, qu'on peut, selon les jours de l'année, selon le plat que l'on sert à table, accompagner son repas soit de Bourgogne, soit de Bordeaux. Mais ce qui est certain, c'est que ce sont des vins radicalement différents et que, incontestablement, pour faire très simple, pour résumer, le Bordeaux, parlons surtout des grands Bordeaux rouges, parce qu'évidemment, il n'y a pas l'équivalent des liquoreux comme les Sauternes en Bourgogne, même s'il y a quelques vins demi-secs, en particulier en Mâconnais, qui sont intéressants. Mais le Bordeaux rouge, le grand Bordeaux rouge, est un vin de méditation, très long à s'épanouir, très long à donner le meilleur de lui-même, et qui n'est pas a priori, sauf certaines cuvées, certaines appellations, certains millésimes, spontanément caressant, mais qui peut être merveilleux parce qu'il peut être, comme les grands Bourgognes, très long en bouche, très riche, extraordinairement riche de fragrances, d'odeurs et de saveurs complexes. Donc ce sont évidemment des vins de grande complexité. Le Bourgogne, du fait en particulier du cépage Pinot, mais aussi, je pense, de l'esprit que les Bourguignons mettent au cœur de leur vin, parce que le vin est d'abord un produit de culture, est surtout en rouge, mais en blanc aussi, bien sûr, avec les chardonnays. Mais les bourgognes sont davantage des vins de sensualité, de caresse, de plaisir plus immédiat, mais évidemment qui, pour certains d'entre eux, mettent du temps aussi à se révéler. Quand on prend des appellations comme celle de la commune de Gevrey-Chambertin, de Vaune-Romanée ou d'Allos-Corton, il y a des vins qui mettent un certain temps à s'épanouir et à révéler toute leur séduction. Mais on peut dire quand même que le Bourgogne est davantage fait pour être bu que pour être dégusté. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît assez. Et il y a beaucoup de discours, beaucoup de textes à ce sujet. Il y a beaucoup de vignerons qui en parlent très très bien. Je pense à Hubert de Montille, qui vient de disparaître et qui détestait qu'on puisse parler de dégustation des vins. Pour lui, le vin était fait pour être bu. Alors bien entendu, il savait en parler admirablement, il savait décrire les vins qu'il produisait et ceux des autres, mais il fallait le boire. Le vin est fait pour être bu et pour procurer du plaisir. Je dirais qu'il est fait pour être bu ensemble, pour être partagé, et non pas pour être bu seul.
Et puis il y a cette douteuse plaisanterie que vous reproduisez dans votre dictionnaire amoureux de la Bourgogne. Les Bordeaux font pisser, les Bourgognes font bander.
Ça se dit assez souvent, je pense qu'il y a un peu de vrai.
Alors la gastronomie bourguignonne tient une place importante dans votre dictionnaire. Le jambon persillé, l'andouillette, la viande charolaise, les goujins, la moutarde, enfin je ne peux pas tout mentionner. Il existe du caviar d'escargot.
Oui, ça ne se trouve pas si fréquemment que cela, mais ce sont des œufs d'escargot et certains producteurs en mettent un tout petit peu dans des petits flacons, ça coûte assez cher, mais c'est assez bon.
Et puis, ce qui est formidable dans ce dictionnaire, ce sont ces personnalités qui ont apporté leur nom et leur spécificité à la gastronomie bourguignonne. Alors je pense au maire de Dijon, notamment Gaston Gérard, pas le chanoine Kir. Hein. Arrêtons-nous d'abord sur Gaston Gérard, qui a été maire de Dijon donc de 1919 jusqu'à 1935. J'ai appris grâce à vous, je ne le savais pas, qu'il avait été ministre du tourisme, oui. Créateur de la foire gastronomique de Dijon. Et il y a cette recette du poulet façon Gaston Gérard. Alors, c'est quoi ? C'est du poulet avec du comté et du paprika, pour faire simple ? Non, ou c'est plus complexe que ça ?
C'est du poulet qui donne des poignées d'amour. D'abord, il faut du bon poulet, parce que c'est quand même assez riche. C'est plutôt un plat d'hiver. Donc, il faut de la moutarde, de la crème, un peu de paprika. Mais on ne sait pas si le paprika est dans la recette d'origine ou si c'est un petit ajout de Madame Gaston, l'une des Madame Gaston Gérard, qui était reine Gérard, qu'on appelait reine de Bourgogne, et qui a fait un jour pour Kurnansky ce fameux poulet dans lequel elle avait ajouté du paprika. Mais il y a aussi, bien entendu, du comté, c'est-à-dire un petit clin d'œil vers la province voisine, qui est celle de la Franche-Comté, alors qu'on aurait pu imaginer d'y mettre de l'époisse, par exemple, ou du citeau.
Le chanoine Félix Kir. Alors, le chanoine Félix Kir, né en 1876, il meurt en 68, un petit homme, hein, 1m64, maire de Dijon dès 1945, il sera ensuite député. Alors, c'est une personnalité haute en couleur.
Ah oui, c'est un personnage absolument étonnant qui fait rire la France entière parce qu'il jouait et de son accent bourguignon et de sa soutane trop courte et un peu tachée et de son béret hors d'âge et de sa façon de concevoir la politique. Mais il représentait sur le plan politique, en dehors de son rôle à Dijon bien sûr, mais il représentait sur le plan politique une voie de la politique plutôt de droite, anti-gaulliste. Il représentait la démocratie chrétienne et il trouvait que le général de Gaulle était pas assez social, un peu trop proche des patrons, etc. Et en même temps du Parti communiste qu'il l'avait soutenu à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc le chanoine Kir détestait le général de Gaulle. En plus, il était spécialiste des saillies. Très drôle, enfin, il pouvait avoir la dent très très dure, comme le général, pour faire des plaisanteries assassines.
Quelques belles vacheries, quoi.
Quelques belles vacheries, oui. Et crois qu'il se le rendait bien et que le général ne l'aimait pas beaucoup non plus. Enfin, d'ailleurs, quand le général est venu à Dijon, ils ne se sont pas parlé.
Il y en a une qui est très bonne, c'est un Dijonais qui dit au chanoine Kir, « Dieu n'existe pas, je ne l'ai jamais vu. » Et chanoine Kir lui dit, « Et mon cul, tu ne l'as jamais vu, donc il n'existe pas. » Voilà, c'est très ça, fort quand même.
Oui, non. Mais à l'Assemblée nationale, parce qu'il a fait plus... Il a été député jusqu'en l'âge de 4, plus de 90 ans, et c'est lui qui faisait le discours d'ouverture. Donc il l'a fait au moins deux fois, je crois, le discours d'ouverture de la session parlementaire. Et après la première session parlementaire, après une élection législative, et il était hilarant. Alors évidemment, comme il mélangeait un peu des phrases tirées de ses sermons à des phrases politiques, ça ne plaisait pas à tous les anticléricaux de l'Assemblée. Mais ça fait rien, il s'en fichait complètement. On l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il a régné sur Dijon. Voilà, alors son bilan politique, le bilan sur la ville de Dijon, on pourrait en discuter longuement. Ce qui restera, et Jean-François Bazin dans sa biographie l'a très bien montré, c'est quand même la truculence du personnage. Et le dernier ecclésiastique à avoir été un homme politique important.
C'était Jean-Robert Pitt qui évoquait son amour de la Bourgogne. Je rappelle que vous pouvez vous procurer en librairie le dictionnaire amoureux de la Bourgogne de Jean-Robert Pitt. Il est disponible aux éditions Plon. Il y a d'ailleurs une entrée dans ce dictionnaire consacré à Auxerre et je voudrais vous lire un petit extrait, justement, de l'article consacré à Auxerre. Auxerre a même la particularité de posséder encore un vignoble situé quasiment en centre-ville, le Clos de la Chaînette. Contemporain du Clos de Bèze à Gevrey-Chambertin, il a été planté au 7e siècle et son vin a joui pendant des siècles d'une haute réputation comparée par Julien en 1817 à ceux de Vaune, Volnay et Pommard. Ce clos, le plus vaste vignoble intra-urbain de France, le château Aubryon est situé dans la banlieue de Bordeaux, les vignes de Beaune sont à 1 km des remparts, les parisiennes sont minuscules, s'étend sur 4,15 hectares sur le versant exposé au midi compris entre l'ancienne abbaye Saint-Germain dont il dépendait avant la Révolution et l'hôpital psychiatrique auquel il est aujourd'hui rattaché. Ces vignes ont d'ailleurs pendant longtemps été cultivées par les patients, travail qui faisait partie de leur thérapie. La production qui bénéficie de l'AOC Bourgogne est pour l'essentiel issue du chardonnay, mais un cinquième provient du pinot noir. 2600 privilégiés ont le droit d'acquérir chaque année une caisse de ces vins typiques de l'Auxerrois à un prix raisonnable, mais il est tellement chic quand on est d'Auxerre de servir ce vin à sa table que plusieurs centaines d'amateurs sont inscrits sur une liste d'attente et il faudra sans doute un jour contingenter la vente davantage encore. Le domaine produit aussi du marc et du ratafia. Les gentils vins du Clos de la Chaînette appellent une cuisine bourguignonne rustique. Gougères, andouillettes, escargots, jambon à l'os, sauce au chablis et à la crème, fromage de Saint-Florentin ou de Sous-Maintrain et au dessert le tartouillat, clafoutis aux cerises marmottes qui étaient jadis cuits dans des feuilles de choux et s'est aujourd'hui embourgeoisé en cuisant plus benoîtement dans un moule. Ces savoureuses spécialités se trouvent sur les marchés ou dans les quelques restaurants d'Auxerre. Voilà, c'était un extrait de l'article Auxerre, puisé dans le dictionnaire amoureux de la Bourgogne de Jean-Robert Pitt, que vous avez pu entendre il y a quelques minutes. Si vous souhaitez retrouver les références et les titres des ouvrages dont il a été question aujourd'hui dans Wagon Libre, il vous suffit de vous rendre sur le site d'archives de l'émission via Internet sur le www.yannickpetit.fr. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous vous proposerons un entretien avec Marc Ray, qui fait paraître 8 nouvelles morvandelles. Train en rade, c'est aux éditions Mutines et il sera l'invité de votre émission littéraire samedi prochain, 4 mai, toujours à 11h sur Radio. Un excellent congé de fin de semaine. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Au revoir et à la semaine prochaine.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radio.